RMC Motors Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Salut à tous et bienvenue dans Motors sur RMC et RMC Sport News, votre dose hebdo de Sport Maker. On est ensemble comme tous les dimanches jusqu'à 14h. Bonjour Jean Lecroix.
Et bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Et bonjour à vous tous et à nos invités notamment. Ils seront à l'appel hein, ce dimanche. On va se régaler avec le Dakar. D'abord au menu, 41e édition achevée jeudi au Pérou, remportée par le Qatari Nasser Al Attiyah. Son copilote sur Toyota, Mathieu Baumel, sera avec nous dans quelques petites secondes. En direct, notre copilote également à nos côtés, après 13h20, Julien Ingracia, l'homme de confiance de Sébastien Ogier, le sextuple champion du monde des rallyes, sera en direct à 4 jours du coup d'envoi du championnat du monde des Rallye WRC avec le mythique rallye de Monte-Carlo. Sébastien Loeb y sera également. Et puis à 13h40 dans Radio Paddock avec Benoît Boutron, toutes les infos de la semaine. Le fils Schumacher chez Ferrari, un grand prix de Formule 1 peut-être en Finlande. Tout ça, c'est dans Motors jusqu'à 14h en direct sur RMC. Et on va d'abord partir au ski, parce que dans un quart d'heure, même un petit peu moins désormais, dans une dizaine de minutes, la deuxième manche du slalom de Wengen sera à suivre en direct sur RMC. En Suisse, Morgane Maury, notre envoyé spécial, est là. Salut Morgane.
Salut Arnaud, bonjour à tous.
On le rappelle, les Français ont brillé pour certains en première manche.
Oui, Clément Noël, 21 ans, qui a fait deuxième au slalom d'Adelboden dimanche dernier. Et bien, pour la première fois de sa carrière, il a terminé une première manche de Coupe du Monde en haut du classement et avec une belle avance, 4 dixièmes d'avance sur l'Autrichien Manuel Feller. On retrouve en troisième position à 7 dixièmes le Norvégien Henrik Kristoffersen et quatrième Alexis Pinturo, 7 dixièmes également de son coéquipier. Ces deux Français-là sont placés pour le podium, pour la gagne même, mais Clément Noël va devoir jongler avec ses émotions. C'est la première fois qu'il se retrouve dans cette position de fermer une manche en partant avec plus d'avance, avec de l'avance sur ses concurrents. Ce sera donc le dernier à s'élancer de cette manche qui part à 13h15. Arnaud, il y a un autre Français qui est dans ce deuxième exercice, c'est Jean-Baptiste Grange, 9e de la première manche.
Merci beaucoup Morgane Maury, évidemment on suivra ça avec beaucoup d'attention. Le départ du premier dossard, ce sera à 13h15.
RMC Motors. Le briefing.
Et on va forcément donc parler du rallye Dakar aujourd'hui. C'est terminé pour la 41e édition de ce rallye. Jean-Luc, entièrement disputé au Pérou cette année et remporté dans la catégorie auto pour la troisième fois de sa carrière par le Qatari Nasser Al Attiyah. Nani Roma, l'Espagnol, termine second. Sébastien Loeb, lui, termine troisième. Jean-Luc, juste avant de tirer ensemble un bilan de ce Dakar, un mot des audiences, des très bonnes audiences justement avec notre spécialiste Sport Méca à la rédaction. Salut Lucas.
Salut Arnaud, salut à tous.
Le Dakar plaît toujours. La preuve, il a été très regardé à la télé cette année.
Ouais, 640 000 téléspectateurs en moyenne devant France 4 pour suivre les résumés d'étapes, avec un pic à 820 000 téléspectateurs mercredi dernier, soit plus que certains grands prix de Formule 1. 1,9 million pour le journal du Dakar sur France 3. Belle réussite aussi sur Internet, une progression de 53%. Plus de 9 heures de direct sur la chaîne Fox Sport en Amérique du Sud. Et pourtant, malgré ce succès d'audience, on ne sait toujours pas où le Dakar posera ses valises l'année prochaine.
Ouais, on va en parler en détail dans quelques instants. C'est vrai, Jean-Luc, malgré tout, on ne sait toujours pas effectivement si le Dakar pourra bien avoir lieu, parce que faut le dire, faut rappeler, eh bien les pays d'Amérique du Sud qui pour certains se jetaient, j'ai envie de dire, sur l'organisation il y a quelques années, c'est un petit peu plus compliqué désormais. Hein.
Et oui, c'est toujours très compliqué. Tu sais, c'est une épreuve internationale. Effectivement, le Dakar était parti en Amérique du Sud en 2009. On le sait, suite aux problèmes géopolitiques rencontrés malheureusement en Afrique du Nord en 2008, où le rallye avait été annulé. Il avait trouvé refuge notamment en Argentine, et puis on avait été dans d'autres pays. On avait été au Chili, au Pérou, bien sûr, en Bolivie. Alors, on y travaille. Hein. On devait avoir Étienne Lavigne. Pour tout te dire, il est dans l'avion. Évidemment, on peut pas le joindre dans l'avion pour le moment, mais je pense qu'il est en train de travailler sur d'autres solutions. On l'a évoqué d'ailleurs avec Roger Kalmanovitz, qui a longtemps fait office de ministre des Affaires étrangères du Dakar, c'est ainsi qu'on l'appelait.
Qui était en direct dans Motors il y a deux semaines.
Tout à fait. On a évoqué plusieurs pistes en Afrique notamment, ou bien un élargissement qui est souhaitable naturellement en Amérique du Sud. Bon, c'est le lot d'une épreuve itinérante comme celle-là. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, je l'avais dit avant, je le dis après, et tant mieux ce que Lucas vient de nous confirmer, si les audiences ont été bonnes, voire très bonnes, parce que le Dakar fascine toujours. C'est vrai que cette épreuve au long cours mérite évidemment un terrain de jeu à sa mesure.
Il fascine toujours, et c'est vrai qu'on va accueillir dans un instant notre invité Mathieu Baumel, copilote de Nasser Al Attiyah, vainqueur du Dakar dans la catégorie auto. Il fascine toujours, d'autant qu'on a le sentiment aussi là de retrouver des paysages, et beaucoup de pilotes le disaient cette année, des paysages et des comment dire, des théâtres de course qui font vraiment penser au rallye raid, ce qui n'a pas toujours été le cas depuis que le Dakar est en Amérique du Sud.
Alors c'est vrai qu'il y a eu des variations, notamment lors de l'arrivée de Sébastien Loeb cette fois et Daniel Elena en 2016. On avait des premières spéciales dans le nord de l'Argentine qui étaient des spéciales très typées WRC, j'allais dire comme par hasard. Donc des spéciales très rapides où on pouvait presque avoir des notes virage par virage. Certains des anciens du Dakar, dont Stéphane Peter Hansel évidemment, disaient « ça n'est pas le Dakar qu'on a connu, c'est un autre esprit ». On est revenu et c'est tant mieux. Et Loeb et Elena s'en sont très très bien tirés puisqu'ils étaient termine, tu le rappelais, sur le podium de ce rallye en privé avec une Peugeot d'il y a deux ans. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de s'adapter, mais ça on le savait déjà. Et puis là, on trouve vraiment un équipage des purs dakaristes. On a vu Peter Hansel également à la lutte avec eux, avec David Castera, à qui on souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement, hein, parce qu'il y a eu un très très gros choc. C'est ça qui les a éliminés de la bataille pour la fin du rallye, pour la victoire. Non, écoute, c'était un Dakar qui a mérité ce nom-là, parce que ces passages dans les dunes sont toujours aussi spectaculaires. Il y avait des problèmes de navigation. Il y a eu même des erreurs de roadbook. On a vu Daniel Elena en colère à plusieurs reprises. Mais ça fait partie du Dakar, ce que j'ai dit la semaine dernière. Malheureusement, c'est comme ça. On ne peut pas avoir des notes mètre par mètre sur des milliers de kilomètres.
Et on va accueillir le copilote du vainqueur de ce Dakar. Et donc vainqueur aussi, lui, de ce Dakar, remporté donc par Nasser Al Attiyah sur Toyota. Mathieu Baumel est avec nous. Bonjour Mathieu Baumel.
Bonjour tout le monde.
Et merci d'être en direct et félicitations pour cette belle victoire. Jean-Luc, je t'en prie, c'est ton invité.
Oui, salut Mathieu. Je te remercie d'être en direct avec nous, à peine descendu de l'avion. Bah déjà, évidemment, je ne peux que répéter ce que vient de te dire Arnaud. Félicitations, surtout que c'est la troisième victoire aux côtés de Nasser Al Attiyah. Alors déjà, j'ai envie de te dire, vous gagnez, je crois, tous les quatre ans. Hein, donc la prochaine, tu l'as déjà planifiée pour 2023.
Alors c'est même pire que ça, c'est qu'on gagne tous les quatre ans, mais le jour de mon anniversaire. Donc ça va être très compliqué, tu vois, pour les prochains Dakar. J'espère qu'on va casser un peu ça et qu'on va réussir à gagner entre temps.
Ouais. Écoute, redevenons sérieux. Donc on a parlé d'abord, ton avis à toi qu'il a vécu dans le baquet du Toyota, et on va insister là-dessus aussi. Magnifique victoire du constructeur japonais qu'il s'était jamais imposé au général sur le Dakar, ce qui était absolument incroyable, alors qu'il y a énormément de concurrents, notamment privés, qui ont recours à des Toyota. Donc comment tu l'as ressenti, toi? On parlait du parcours uniquement au Pérou, beaucoup de sable, navigation, voilà. Qu'est-ce que tu penses, toi, à peine sorti du baquet, victorieux de cette Toyota?
Donc pour revenir en fait sur ces 10 jours de course, c'est vrai que c'était un vrai Dakar comme vous l'avez dit. Techniquement, très très dur avec justement ces dunes, ces grandes étendues hors piste, le fèche-fèche, enfin, tu vois, toutes ces... Il n'y avait pas d'altitude cette année, mais heureusement, je dirais, parce que la technicité, la difficulté de l'épreuve était déjà telle que, tu vois, 50% des concurrents sont arrivés. Donc du coup, je trouve que sportivement, c'était une très belle édition. Il y a eu de la bataille à tous les étages, donc c'était plutôt sympathique. Après, c'est vrai que tu parlais de pistes typées WRC. On s'était un peu habitué à ça sur les dernières années, et je dirais que ça a quand même un peu manqué de la piste, de la vraie piste, tu vois, de faire tous les jours que du sable et de la navigation. Au final, c'est un peu long, voilà. Mais après, ça s'est pas trop vu vraiment sur les retours à l'écran, et les images que les gens ont pu voir, tout le monde m'a donné un retour qui était extraordinaire, avec des beaux paysages quand même. Et nous, dans les dunes, c'est sûr qu'on s'est régalé. Nasser adore ça, et c'est ce qui a fait une grande partie de la victoire cette année.
Alors effectivement, on peut insister sur cette symbiose, hein, avec Nasser, que tu navigues depuis des années et des années. On rappelle que vous êtes également champion des rallyes au Moyen-Orient, donc ça ne se limite pas au Dakar, votre saison. Alors comment il est, Nasser, qui est toujours souriant à l'extérieur? J'allais dire, quand l'atmosphère et l'ambiance se tend un petit peu dans l'habitacle, est-ce que il est un peu moins souriant, on va dire?
Non, mais ça, c'est aussi une partie de ce qui fait notre force. C'est que Nasser, comme vous le voyez à l'écran, avec le sourire, sa gentillesse, et il est comme ça tout le temps, en fait. Donc même dans la voiture, quand ça va pas et qu'on fait des erreurs, parce qu'on fait des erreurs tous les jours, hein, il faut pas croire que celui qui gagne, c'est celui qui fait pas d'erreurs, c'est celui qui en fait le moins. Et là où on a un petit avantage, je pense, par rapport aux autres équipages, c'est que on s'entend tellement bien avec Nasser, notre relation est tellement forte qu'il n'y a jamais en fait de mot plus haut que l'autre, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'énervement, et du coup quand il se passe quelque chose, ben c'est des problèmes qu'on va réussir à résoudre ensemble, et Nasser ne fait pas que conduire en disant ben fais ton boulot, amène-moi où il faut, débrouille-toi. C'est vraiment une discussion et un échange entre nous, et du coup ça va beaucoup mieux quoi. C'est encore une fois, il n'y a pas de stress, tout se passe dans le calme, et le but du jeu c'est de revenir le plus vite possible sur la bonne route, et en général bon, on s'en sort pas trop mal. Après des erreurs, comme je te dis, il y en a tous les jours.
On a vu, si je puis me permettre de vous couper, on a vu d'ailleurs que ça avait posé pas mal de soucis, notamment à l'équipage Loeb et Lena, qui sur une des étapes était arrivé avec trois quarts d'heure de retard, je crois. Et c'était beaucoup plein justement du roadbook qui selon eux était pas vraiment très précis. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi sur du rallye raid, peut-être plus que sur du rallye WRC ou de la piste quoi.
Ouais, il faut remettre les choses à leur place. En fait, on fait du rally raid. Donc rally raid, c'est des roadbooks qui font entre 300, 400, 500 voire plus kilomètres par jour de spécial dans des endroits vraiment hors piste, hors sentier. Donc t'imagines bien que ça tombe pas toujours pile poil, et de toute façon, on n'est jamais vraiment sur la route idéale. Donc le rally raid, c'est l'improvisation. C'est l'adaptation, et ça c'est vrai que peut-être Daniel Elena et Sébastien Loeb, ils ont moins l'habitude que nous, en tout cas ou moins d'expérience là-dessus, mais l'erreur qu'il y a eu là dans le roadbook, et il y en a pas eu qu'une sur ce rallye là de toute façon, mais l'erreur qu'il y a eu là dans le roadbook avec un peu d'expérience, elle était facilement contournable du fait que on était sur un cap avec une piste unique, et même s'il y avait un poteau qui était mal placé dans le roadbook, il faut continuer, enfin il faut avancer, il faut suivre le cap et la piste qui est là, donc après ça c'est, je dirais que c'est fait de course, mais ça arrive très très souvent.
Mathieu Baumel, le copilote de Nasser Alati, vainqueur du rallye Dakar 2019, est avec nous en direct dans Motors sur RMC à 13h18. Jean-Luc, je t'en prie.
Oui, et puis pour rebondir sur ces problèmes de navigation, évidemment, je sais, ça fait vieux dakarien, mais je rappelle quand même qu'en Afrique, on naviguait avec des cartes et des boussoles, et que quand on traversait le Ténéré dans tous les sens, je peux te dire que ça passait pas au mètre près. Hein. Quand on était à moins de 10 km de la piste, on était heureux.
Puis heureusement que ça se passe un peu comme ça aussi, parce que si tout était bien calé, que tout tombait bien, enfin, on n'est plus dans l'esprit rallye raid, on va faire justement du rallye. Donc là, il est au Monte Carlo, c'est son domaine. J'espère que ça va bien se passer pour eux, hein. Mais c'est deux métiers différents, et il faut, encore une fois, il faut s'adapter. C'est ça qui fait la beauté de ces courses-là.
Oui, j'allais te demander autre chose, évidemment. La menace de Stéphane Peter Hansel, hein, 13 victoires au Dakar quand même, on le rappelle, 6 à moto et 7 en voiture, copiloté de surcroît par un autre motard, David Castera, qui a été blessé, je crois que ça va mieux, blessé au dos. Vous y avez cru à un moment, vous avez eu peur, Mathieu, parce qu'il n'était pas très loin avec leur Mini.
On a toujours peur. La concurrence était bien placée, avait du matériel sur le papier normalement plus performant que le nôtre. Hein. Les buggy aujourd'hui, ils sont 300 kilos plus légers que nous. Ils ont des roues plus grosses, plus larges, des systèmes de gonflage-dégonflage automatiques que nous, on n'a pas dans nos voitures. Donc tous ces trucs-là, pour le sable, c'est censé les aider. Donc en plus, quand au volant, tu as Stéphane Peter Hansel et copiloté par David Castera, forcément tu t'inquiètes un peu. Après, fait de course, quelques petites erreurs de Stéphane où il a reconnu. Hein, il a été. J'adore beaucoup Stéphane Peter Hansel dans sa manière d'être et de faire, parce que il est hyper réaliste, et puis il en veut à personne. Ouais. Il reconnaît ses erreurs, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai de très bons rapports, et ça s'est très bien passé pendant ces 10 jours de course.
Et pour rebondir sur ce qu'on disait, on a vu d'ailleurs une discussion, j'allais dire surréaliste, c'est pas forcément le mot, mais une discussion où Daniel Elena et Sébastien Loeb se plaignaient de ces histoires de roadbook, et puis il y avait Peter Hansel qui était là à côté, qui disait mais les gars, c'est ça, c'est du rallye raid, c'est comme ça, si on comme vous avez dit, Mathieu Baumel, on aurait pu la contourner, enfin vous auriez pu la contourner l'erreur si jamais vous aviez avec peut-être un peu plus d'expérience.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc après, je sais pas si on va revoir Sébastien Loeb et Daniel Hénin sur Dakar, mais petit à petit, en tout cas, ils acquièrent une expérience et on sait que Seb a les capacités techniques de rouler plus vite que quasiment tout le monde. Donc ils seront dangereux sur les prochains Dakar, ça c'est sûr, et ils ont la possibilité de gagner et si tous se combinent bien. Donc tant mieux qu'on ait gagné cette année nous avec Nasser. Voilà, ça c'est fait.
Et c'est génial. Alors justement, deux petites infos d'abord, parce qu'on va revenir évidemment à cette victoire avec la Toyota. D'abord, Philippe Boutron et Mayol Barbet ont terminé cette épreuve. Et oui, 41e.
Félicitations.
Le papa. Et oui, le papa de Benoît, on va le retrouver. Il doit être très très fier d'avoir terminé. Et puis la victoire à moto, elle mérite plus que ça, hein, de Toby Price, qui avait déjà remporté ce rallye. C'est sa deuxième victoire, qui est partie avec une fracture du scaphoïde à peine remise. Ça, c'est incroyable. Il gagne devant Mathias Falkner, qui s'était imposé l'an dernier, et Sam Sunderland. On revient à votre victoire, Mathieu. Victoire de Toyota, il faut le rappeler, l'un des plus importants, sinon le plus important constructeur mondial. Alors on sait que c'est, on peut parler de Toyota, mais c'est une équipe un peu privée, hein, développée en Afrique du Sud. Est-ce que tu penses que Toyota, qui est également présent en championnat du monde d'endurance, en WEC, on le sait, en WRC, tu l'évoquais, va donner plus de moyens, va mieux s'investir et plus s'investir dans le Dakar, Mathieu?
Bah, on est déjà donc sur une victoire historique, comme vous l'avez dit et souligné. C'est sûr que Toyota, depuis l'histoire de la création du Dakar, donc ça fait la 41e année maintenant, n'avait pas réussi à s'imposer. Et là, c'est chose faite. Donc, je vous cache pas que ça fait quelque temps déjà que on est en relation avec donc le Japon, vraiment Toyota, pour essayer de monter une structure à niveau égal avec le WRC ou le Mans, enfin l'endurance. Et c'est quelque chose qui était pour l'instant un peu mis de côté. Donc il y avait quand même une aide de Toyota via une structure technique qui est en Afrique du Sud. Mais il n'y avait pas vraiment d'implication. Donc j'espère que suite à cette victoire, on va pouvoir maintenant avoir quelque chose d'un peu plus structuré et plus sérieux pour les années à venir. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, mais j'ai déjà reçu, avec Nasser, on a déjà reçu notre invitation pour aller au Japon en discuter. Donc ça prend, je pense, une bonne voie. Espérons pour tout le monde que ça suive ce qu'on a envie de monter avec Nasser et une vraie équipe structurée, Toyota Gazoo Racing, en rallye raid, et ça pourrait amener quelque chose de fantastique.
Ah oui, et puis avant de te demander quelle est la suite de ta saison avec Nasser, tu as lu bien sûr le communiqué officiel de Toyota signé par monsieur Toyoda, le président, qui lui-même rappelait qu'il était venu essayer la voiture au Maroc, hein, je crois, il y a quelques semaines. Mathieu, tu devais y être probablement. Il adore piloter et il parle, ce qui est très rare chez les Japonais, à la première personne. Il dit je crois qu'il est très très fier de cette victoire au Dakar qui manquait dans le palmarès du constructeur japonais.
Exactement, donc c'est pour ça que toutes ces petites choses positives réunies, on sait que dans ces gros groupes, ça prend un peu de temps à se mettre en place, ouais. Mais je pense que là, on est sur la bonne voie et espérons que ça puisse déboucher sur quelque chose pour les années suivantes. On parle de pas mal de nouveaux pilotes aussi qui pourraient intégrer le team Toyota pour le rallye raid, donc voilà, tout ça est en train de se mettre en place et on en saura un peu plus dans les mois qui arrivent.
Allez, Mathieu Baumel, vainqueur du Dakar avec la Toyota. Alors, une question sur ton programme à venir. Et puis, tiens, une petite question sur le fait que c'est un fin tireur, on le sait, Nasser, puisque médaille de bronze au JO, hein, si je me souviens bien, en balle trap. Donc, c'est un rapide également.
Ouais, ben médaille de bronze au JO en 2012, mais même mieux que ça, il a fait 6 Jeux Olympiques d'affilée, Nasser, hein, depuis. Hein, donc, c'est le ski shooting, en fait, lui, c'est pas vraiment le ball trap, mais c'est à peu près la même discipline. Et là, il met vraiment un point d'honneur à se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques, donc en 2020. Et s'il arrive à le faire, ce sera le seul athlète de l'histoire des Jeux Olympiques à avoir participé à 7 Jeux Olympiques d'affilée.
Génial.
Donc voilà, il cherche pas, il court pas après les records, mais c'est vrai qu'avec son palmarès en rallye plus son palmarès là en shooting, donc que ça soit olympique ou mondial, c'est vrai que c'est un athlète complet et c'est une personne fantastique. Donc je suis très heureux d'être son équipier.
Génial, merci beaucoup Mathieu, merci, hein. Repose-toi bien.
Merci beaucoup Mathieu Baumel d'avoir été en direct sur RMC dans Motors. Mathieu Baumel, donc copilote de Nasser Alatia, vainqueur du rallye Dakar 2019, 13h25 dans un instant, Motors revient sur RMC, on va continuer à parler de rallye WRC, cette fois-ci c'est la reprise du championnat, la semaine prochaine ça se passe sur le rallye du Monte Carlo évidemment, épreuve mythique à laquelle va participer Sébastien Loeb. On sera nous avec Julien Ingracia, le copilote de Sébastien Ogier, sextuple champion du monde des rallyes, dans un instant en direct sur RMC. 13h25, on se retrouve dans une petite minute.
RMC Motors, Arnaud Jean Lecroix.
Jusqu'à 14h, Motors sur RMC, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 13h28, toujours avec Jean Leroy, avec Jean-Luc Croix. Ça va Jean-Luc?
Oui, ah ben moi super bien.
The King en direct de la Floride qui nous fait l'honneur d'être là. Lucas Vinoy également, notre spécialiste sport méca à la rédaction de RMC Sport est avec nous. Tiens, ça tombe bien Lucas parce que on va parler du début du championnat du monde des rallyes WRC, le mythique rallye du Monte Carlo. C'est la semaine prochaine à partir de jeudi. Dans un instant, on sera avec Julien Ingracia, le copilote de Sébastien Ogier, sextuple champion du monde des rallyes. Tu vas couvrir ce rallye pour RMC Sport. Ça va être quoi en gros le programme? Donne-nous un petit peu l'eau à la bouche. Mets-nous un petit peu l'eau à la bouche, les gars.
Eh bien, écoute, dès mercredi, ce sera le Media Day, ce qu'on appelle la journée des médias. Donc, on va aller à la rencontre de Sébastien Ogier, justement, savoir ses premiers ressentis depuis qu'il est retourné chez Citroën après deux saisons passées du côté de M Sport chez Ford, avec qui il a réussi à remporter plusieurs titres de champion du monde. Il y aura aussi Sébastien Loeb, forcément, lui qui a changé de crèmerie, passé chez Hyundai après 170 rallyes en championnat du monde du côté de Citroën, même avec le groupe PSA, puisqu'il a fait 4 Dakar avec Peugeot, 3 saisons de rallycross aussi avec Peugeot. Et puis après, ce sera déjà le temps de la compétition avec deux premières étapes de nuit, comme d'habitude, le jeudi, et puis ensuite l'intégralité du rallye sur RMC.
Un rallye forcément un petit peu particulier dans le calendrier du championnat du monde. On est justement pour en parler en ligne, en direct, Jean-Luc, avec Julien Ingracia, le copilote de Sébastien Ogier. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous sur RMC. Je le disais, rallye particulier qui forcément doit avoir une saveur un petit peu différente par rapport à d'autres épreuves du calendrier.
Ouais, bah on l'a souvent dit, puis vous le comprenez bien, quoi. C'est vrai que c'est la première manche de la saison, donc c'est là que tout le monde se jauge. On ne sait pas quel progrès on a fait avec la voiture, comment on va pouvoir se comparer par rapport aux autres sur le terrain. Et puis, bah, a fortiori pour nous qui découvrons une nouvelle auto, une nouvelle équipe, donc on est un peu dans l'inconnu par rapport à ça. Et après, bah, il y a toute l'effervescence la notoriété, la magie du rallye Monte Carlo. Et on rajoute à cela le fait que ben Seb soit né sur les hauteurs de Gap. Moi, je suis de la région aussi, né à Aix-en-Provence. Donc ça crée effectivement un petit clin d'œil particulier, d'autant plus que pour la petite histoire, quand on s'est rencontré pour la première fois avec Seb en janvier 2006, j'avais débarqué chez lui un soir, enfin chez ses parents, et puis on avait fait connaissance autour d'une tablée, puis dès le lendemain on est allé prendre quelques notes pour commencer à bosser ensemble, à s'entraîner, et 10 ans après, même plus, 13 ans après, on se retrouve sur des tracés, sur des spéciales qu'Oki emprunte ses premières notes, donc c'est un petit clin d'œil sympa.
Jean-Luc Roy.
Oui, salut Julien, je te remercie beaucoup d'être avec nous à quelques jours du départ de ce Monte Carlo. Alors évidemment, la grosse question que tout le monde se pose, après vos 6 titres de champion du monde de rang, il faut quand même le rappeler. D'ailleurs, si je ne m'abuse, tu es le copilote français, j'insiste, le plus titré dans le championnat du monde, je me trompe pas?
Ouais, on a souvent tendance à pas faire le distinguo, avec Danos et Lena. Mais ouais, bon, il est monégasque, donc pour l'instant, quoi, c'est lui le champion du monde de ce record-là. Mais en France, effectivement, j'ai un beau palmarès.
Alors, vous avez décidé de changer d'équipe après Volkswagen, les 4 titres d'affilée, M Sport, et ça, on en a beaucoup parlé ensemble sur cette antenne, dans Motors, ce pari fantastique, gagné 2 fois avec les 2 titres de champion du monde, avec une petite équipe privée, on peut le dire. Est-ce que le fait de vous retrouver dans une équipe d'usine avec Citroën qui va tout faire pour gagner, on a bien compris, Julien, on va pas se cacher derrière son petit doigt, l'objectif c'est le titre de champion du monde avec un équipier, Ezapeka Lapi, qui devrait pas vous faire d'ombre normalement?
Alors, ouais, il y a plusieurs choses. Effectivement, on est très content quoi, de retourner chez Citroën 8 ans après. Et puis, on a tous envie de d'écrire une belle page de nos histoires respectives. Donc effectivement quoi, il est hors de question d'imaginer autre chose que de viser le titre cette année. Et puis le fait de travailler avec Hippie, c'est son petit surnom quoi, SAPK. Pour nous c'est une bonne chose parce que c'est quelqu'un d'agréable, lui et son coéquipier, son navigateur, ce sont des gens cool on va dire. Et puis qui ont montré leur potentiel. Seb a été assez clair quoi aussi quoi que tant que mathématiquement il n'y avait pas de il y avait une issue probable quoi pour lui d'être titré champion, il y aurait pas de consigne d'équipe ou quoi que ce soit, donc je vais pas rentrer dans le détail à dire qu'il nous fera pas d'ombre ou pas, on est d'accord quoi, il a pas l'expérience qu'on a, il a pas le nombre de victoires qu'on a, etc. Après on est tous ok dans le team pour partir à armes égales et ça c'est une bonne chose.
Alors, si on revient, Julien, justement, sur ce retour, est-ce qu'on peut dire, d'ailleurs, finalement, retour à la maison ? On rappelle que vous avez roulé pour Citroën de 2008 à 2011, 7 victoires en championnat du monde, quand même à l'époque. On revient pas sur les circonstances du départ et ce pari extrêmement audacieux de partir dans une équipe étrangère, allemande en l'occurrence, qui découvrait le WRC en développant une voiture. Enfin, tout ça, on la connaît, la belle histoire. Est-ce que, quelque part, c'est un retour à la maison parce que c'est une équipe française ou pas vraiment ?
Alors il s'est passé tellement de choses entre 2011 et aujourd'hui que j'ai déjà l'impression d'avoir eu deux carrières ou trois carrières en une. Donc effectivement on pouvait nous observer de temps en temps sur les parcs d'assistance, et faire la bise à telle ou telle personne, à garder contact avec des gens de l'équipe, et ces gens-là sont toujours présents effectivement au sein de Citroën aujourd'hui. Donc de ce côté-là, effectivement, quoi, c'est chouette de pouvoir retravailler ensemble. C'est Citroën qui nous a donné notre chance au tout début, et effectivement, de ce côté-là aussi, quoi, il y a un côté quoi qui me plaît, moi, quoi, de revenir là-bas pour peut-être notre dernier contrat en WRC. Pardon. Après, en 8 ans, l'équipe a changé, PSA s'est restructuré. Et notamment la branche motorsport aussi, et puis aujourd'hui je dirais que je connais que 30% des personnes qui composent l'équipe Citroën Racing, donc vous l'avez noté, il faut réapprendre la voiture, que Seb puisse l'adapter à son pilotage dans toutes les conditions possibles, ça prend du temps et c'est compliqué, mais on s'y emploie. Et puis il faut aussi connaître l'équipe, la logistique, le côté sportif, la technique, etc. On a mis les bouchées doubles depuis novembre dernier.
Julien Gracia, le copilote de Sébastien Ogier, champion du monde en titre des rallyes WRC, est en direct avec nous sur RMC dans Motors à 13h35, à quelques jours, à 4 jours désormais du début de la saison 2019 de WRC. Il y a Lucas Vinois, notre spécialiste à la rédaction RMC Sport, qui a une question pour vous.
Salut Julien, Sébastien nous a fait savoir qu'il arrêterait probablement sa carrière, en tout cas en WRC, d'ici 2 ans. Comment est-ce que toi tu appréhendes ça ? Est-ce que tu te sentirais prêt, même si c'est 2 ans, c'est long dans le sport automobile, dans une carrière de sportif, est-ce que tu te sentirais capable de travailler avec quelqu'un d'autre ?
Alors non, ça c'est une chose sur laquelle je suis quasiment certain. Alors, il faut jamais dire jamais. Hein. La preuve, on revient chez Citroën. Donc non, ça, je pense que c'est une chose qui n'arrivera pas. Effectivement, parce que en gros, moi, là, pour dire la manière dont je fonctionne, je me dis qu'entre 20 et 30 ans, j'ai eu un parcours d'étudiant et puis de jeune actif, on va dire, dans la vie professionnelle. Entre 30 et 40 ans, grosso modo, j'aurai une carrière fabuleuse en WRC. Et je me dis qu'entre 40 et 50, quoi, j'aurai le luxe, la chance d'avoir une autre vie, à moi déterminer dans quoi ça sera exactement. Est-ce que ça sera dans la transmission de l'expérience, du savoir que j'ai pu acquérir pendant toujours au sein du WRC, du monde du sport auto, dans un team, une fédé, j'en sais rien. Ou alors complètement tourner la page et retourner peut-être faire un petit peu d'études et me lancer plus dans un boulot quoi en relation avec la nature qui m'a toujours botté. Je sais pas.
Bon, voilà, sur moi c'est dit. Jean-Luc, je t'en donne la parole.
Oui, et puis c'est vrai que c'est dans 2 ans, ça doit lui paraître loin, mais c'est une bonne question.
Ça va si près, si loin, ouais. Si loin, si près.
Oui, mais avec la saison qui les attend et puis la suivante, hein, parce que le but c'est quand même de décrocher le titre. Il y a très peu justement d'équipages qui ont été capables, Julien, de remporter des titres de champion du monde pour autant de marques, on va dire, ce serait, c'est pas fait, hein, c'est loin d'être fait, mais ça pourrait être le troisième constructeur. Alors moi, j'ai envie d'insister sur un élément très important, d'abord parce que je le dis franchement, j'admire beaucoup ce type-là. Il y a Carlos Tavares qui est aux manettes de ce grand constructeur, PSA, que tu as évoqué, qui est un fou de sport mécanique. Il y a Pierre Budard qui est aux commandes du team. Est-ce que tu sens un esprit particulier dans l'équipe française, un esprit de gagnant?
Ouais, en tout cas tous les signaux qu'on a eu et le fait de toute manière qu'on arrive, à signer ensemble avec Citroën, montrait vraiment une envie commune de notre côté comme de la leur et avec des signaux forts. Donc maintenant on sait que le plus dur reste à faire, quoi. Il va falloir cravacher dur. Carlos Tavares, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler particulièrement et je connais sa réputation effectivement par rapport à son amour du sport auto et si c'est vraiment dans ce sens-là, ça peut être qu'une bonne chose, quoi, d'avoir quelqu'un, quoi, qui comprenne que le sport automobile a ses particularités, ses spécificités et qui donnera les moyens à l'équipe, quoi, de performer. Nous, en tout cas, sur le terrain, les équipes et nous-mêmes, on est remontés à bloc et on se donnera à 110%.
Ouais, ben ça j'imagine. Alors les premiers essais que vous avez fait avec la voiture, quand même, que donne-t-elle? Parce que vous étiez les mieux à même de juger de son potentiel déjà en 2018, hein, parce qu'elle avait l'air très rapide, cette voiture. Est-ce que c'est quand même pas du côté des équipages que ça a un peu pêché? Je sais que tu vas avoir du mal à le dire, mais bon.
Comment dire? La voiture a montré non mais c'est vrai, la voiture a montré beaucoup de points de vitesse sur certains domaines. Il y avait quelques terrains sur lesquels elle était peut-être un peu moins performante, donc on le sait, sur un championnat il faut être très bon partout, il faut pas avoir de gros points noirs. Les équipages, moi je je parlerai pas là-dessus, quoi, parce qu'effectivement, quoi, c'est Chris Meek, quoi, qui a eu la charge de développer la voiture essentiellement. Et je me dis que il a été le seul à devoir la développer et il aurait peut-être aimé aussi un avis extérieur, un coup de main à l'époque, quoi, pour confirmer ou au contraire écarter certains de ses choix techniques. Donc ce qui est fait est fait. Nous on a fait trois séances aujourd'hui, quoi. Donc une Portugal sur la terre et deux en préparatif du Monte Carlo, donc sur asphalte avec toutes les conditions qu'on peut trouver, glace sec, etc., bosselé. Et ça a relativement pris la voiture en main assez aisément. Mais voilà, quoi, c'est pas ça qui est important. Maintenant il faut vraiment aller chercher les derniers pouillèmes, comme on dit, quoi, pour que ce soit très performant et sur tous les terrains.
Allez, dernière question, Julien, je te remercie à nouveau. Hein. Dans 4 jours, tu seras dans le baquet aux côtés de Seb au JE pour ce Monte-Carlo. Quelle est la météo prévue? On sait à quel point c'est important. Je sais qu'à 4 jours, c'est un peu délicat, mais il s'annonce comment ce Monte-Carlo?
Bonne question. moi, perso, dans une heure, je suis parti pour Nice pour attaquer les reconnaissances et je ferai un point avec mon équipe de Rocco, emmené par Jean-Paul Chiaroni, l'ancien copilote de Bugatti, qui est en charge de tout ça et qui aura des bonnes infos à nous donner, notamment avec notre interlocuteur chez Météo France. Ce que j'ai regardé pour l'instant là sur comme tout le monde, on va dire, sur Internet. Il va y avoir des précipitations, il va y avoir un peu de neige, mais est-ce que ça va tenir? Parce qu'après il y a un peu de redoux, de soleil qui vient, etc., quoi. J'arrive pas vraiment à dire pour l'instant, quoi. On en sera un peu mieux ce soir, demain.
Génial, merci beaucoup Julien, c'est adorable d'avoir été avec nous dans Motor. Salut.
Vous en
prie. Et merde.
Et bon rallye. Et bonne saison. Merci Julien Ingracia, copilote de Sébastien Ogier, donc champion du monde en titre des rallyes WRC en direct sur RMC. 13h41. Motor se revient dans un instant. Radio Paddock. On va vous donner toutes les petites infos de la semaine sur le monde de la Formule 1. Et oui, le championnat du monde lui redémarrera dans quelques semaines. On n'en est pas encore là. Mais enfin, moi, il y a quelques petites infos sympathiques. On en parle dans un instant. 13h41. À tout de suite.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors, Arnaud, Jean Lecroix.
13h43, bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC Motors comme tous les dimanches jusqu'à 14h en compagnie de Jean Lecroix. Ça va Jean-Luc?
Ça va super bien, écoute, on a un beau programme là aujourd'hui.
Oui, on a un joli programme, Radio Paddock, dans quelques petites secondes avec Benoît Boutron qui arrivera avec toutes les infos de la semaine en Formule 1. Il y en a des infos, notamment le fils Schumacher, voilà, qui a signé pour un baquet chez Ferrari. On va voir, hein, c'est plus compliqué, plus complexe que ça. Mais enfin, on en parle dans un instant. Juste avant ça, et juste avant d'accueillir Benoît Boutron, on va faire un petit tour à Wengen, en Suisse, puisque la deuxième manche du slalom spécial de ski alpin est en train de se dérouler sous les yeux de notre envoyé spécial Morgan Mori. Comment ça se passe, Morgan?
Arnaud, 16 concurrents en ont terminé avec cette deuxième manche. Pour l'instant, c'est l'Autrichien Christian Hirschbühl qui domine les débats avec 7 centièmes sur Dave Riding. Mais les tricolores ne sont pas encore passés. Dans 3 passages, il y aura Jean-Baptiste Grange, 9e de la première manche, et ensuite du sérieux avec Marcel Hirscher, Alexis Pinturo, 4e de la première manche, et 3 dossards plus loin, Clément Noël, le Vosgien de 21 ans qui a dominé les débats ce matin. Il s'élancera avec 42 centièmes d'avance, c'est fort, sur son premier adversaire, l'Autrichien Manuel Feller.
Et on va suivre ça évidemment en direct sur RMC.
RMC Motors.
World Champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Je rigole, je suis mort de rire parce que Benoît Boutron est arrivé et comme il essaie d'éviter les caméras.
Comme par magie. Eh oui.
Ah, ça devient compliqué. Sur le plateau. Ben radio, c'est ça, télé. D'être en radio et en télé en même temps sur RMC Sport News.
Exactement.
Benoît, les petites infos de la semaine.
Salut déjà, salut.
Bah oui, bonjour.
Salut Arnaud, bon, salut Lucas, salut Benoît. Le King.
Yes. Hello my friend.
On commence par quoi? Les audiences 2018 de la Formule 1.
Ouais, ça doit rassurer Jean-Luc et Lucas d'ailleurs qui suivent la saison tout au long de l'année. Les audiences sont excellentes au niveau de la Formule 1. On parle d'audience mondiale. C'est assez incroyable les chiffres qui ont été donnés il y a quelques jours. 10% de hausse du nombre de téléspectateurs dans le monde en 2018. Donc c'est un très bon score pour les propriétaires américains. Ce qui est rassurant pour eux, c'est qu'au total on compte 490 millions de téléspectateurs enregistré, et surtout sur les deux marchés prioritaires, il y a plus de 20% aux États-Unis et les chiffres en Chine ont triplé par rapport en 2017, donc les deux plus grosses niches marchent très bien au niveau de la Formule 1 et on a quelques détails à vous donner. Le Grand Prix qui a le mieux marché, c'est le Grand Prix de Monaco,
ouais,
avec 110 millions de téléspectateurs, donc ça reste quand même une référence dans la saison de Formule 1. Les chiffres du Grand Prix de France sont bons, plus de 90 millions de téléspectateurs, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Et enfin, pour terminer sur les chiffres des réseaux sociaux, tu sais, Facebook, Twitter, etc., là aussi sont très bons, puisqu'il y a 50% de hausse sur les comptes de Formule 1, donc tout va bien pour la F1, Jean-Luc.
Écoute, tout va bien, bah, c'est extrêmement rassurant, effectivement, parce que j'espère que le meilleur est à venir, avec les modifications dont on va vous parler longuement, avec évidemment Lucas et Adrien, qui nous rejoindra pour la saison, modifications aérodynamiques qui devraient permettre, on l'espère ardemment, de plus de dépassements, notamment dans les lignes droites, et puis on sait qu'on réfléchit en F1 aux futurs accords Concorde. À partir de 2021, on aura des nouvelles monoplaces, je l'espère, plus spectaculaires, pas plus performantes, hein, parce que celles-ci le sont, mais en tout cas plus de bagarres, plus d'imprévus. Donc tant mieux si les feux sont au vert pour la F1, c'est un grand bonheur.
Une explication, Jean-Luc, sur ces chiffres en hausse? Tu penses qu'il y a une raison particulière?
Je pense qu'il y en a plusieurs additionnés. Tu l'as dit, la France, hein, quand même, le retour de la France. Je crois que, comme toujours en France, et c'est paradoxal, on a du mal à mesurer l'importance que ce pays peut avoir par rapport aux pays étrangers. C'est ici que le sport automobile est né, ou quasiment le premier Grand Prix, c'était dans le coin, au début du siècle dernier, hein, dans les années 1900 et quelques. Donc, le retour de la France, c'est très important. Tu l'as dit, 90 millions de téléspectateurs, ça compte énormément. Ouais. Et puis il y a des pays, j'ai vu, alors tu as cité effectivement.
Oui. Est-ce que je peux me permettre de te couper?
Mais je t'en prie.
Oh ben, je vais te couper pour pas grand-chose parce que j'allais partir à Wengen justement, puisque la France brille en sport méca, en tout cas d'un point de vue des audiences. La France également sur la piste de Wengen, le slalom de la Coupe du monde de ski alpin, Morgan Mori et Jean-Baptiste Grange qui a eu un petit souci.
Et après seulement quelques piquets, Jean-Baptiste Grange qui est parti à la faute, il semble s'être fait mal à un bras, à un coude, Arnaud. Donc Jean-Baptiste Grange, qui était 9e du premier exercice, et ben ne finira pas cette deuxième manche. Et triste parce que la manche a été tracée par l'un des entraîneurs de l'équipe de France de slalom, Loïc Brun, à venir dans 5 dossards, Alexis Pinturo 4e de la première manche, et Clément Noël ensuite, lui il a gagné la première manche de ce slalom de Wengen.
Très bien, et on te retrouvera dans quelques instants. Excuse-moi Jean-Luc, je t'ai coupé la parole, mais tu sais ce que c'est, les aléas du direct. Je te laisse reprendre ton propos si tu te souviens de ce que tu disais.
Mais tout à fait, on parlait des hausses d'audience sur la F1 et dans différents pays. Alors j'ai vu que pour appuyer ce que disait Benoît, il y a l'Inde aussi qui est en progression, ce qui est curieux parce qu'il y a eu un Grand Prix en Inde, une équipe indienne. Bon, aujourd'hui on peut dire que Racing Point n'est plus vraiment une équipe indienne comme l'était Force India, c'était son nom. Et puis les États-Unis, bah ça c'est une bonne chose parce que quand même tout le travail que fait Liberty Media et puis le très beau succès du Grand Prix des États-Unis à Austin, et je sais qu'il y a la Brésil aussi qui est très important. À côté de la Chine et des États-Unis, et ça aussi, bah, c'est un plaisir. Malheureusement, il n'y a plus de pilotes brésiliens, et ça, c'est toujours une très grosse déception et un crève-cœur pour tous les passionnés de F1. Mais allez, espérons que ça va revenir. Quant aux social media, bah, c'est un domaine que Bernie Ecclestone avait laissé complètement de côté. Donc, c'est sûr que on augmente de 50%, mais on partait pas de très haut. Hein, donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup à gagner.
Allez, on continue avec nos infos de la semaine en Formule 1 dans Radio Paddock à 13h49. Dans Motors sur RMC, Mick Schumacher, Benoît, chez Ferrari, Young Drives Programme.
Ça y est, c'est l'info qui est tombée, effectivement. Donc Mick Schumacher s'engage avec Ferrari. Forcément, ça a une connotation particulière quand on connaît l'histoire de son père, mais c'est un événement, ça a été signé hier, et d'ailleurs, déclaration de Mattia Binotto, le patron de Ferrari, qui connaît Mick Schumacher depuis sa naissance. Il a dit, nous l'avons choisi pour son talent et ses qualités humaines, non pas parce qu'il est le fils de Michael. Forcément, ça a compté, on va pas se mentir, mais ce qui est marrant, c'est que Jean-Luc, il rejoint un certain Alesi dans les jeunes pilotes Ferrari. Ça fait une belle alliance, ça.
Eh ben écoute, ça veut dire qu'on a de la mémoire, une belle mémoire du côté de la Scuderia. On sait que Mattia Binotto, on en a parlé la semaine dernière, effectivement, est chez Ferrari depuis 1995. Donc il a connu quasiment Michael Schumacher au sein de cette Scuderia depuis cette année-là. Donc il a vécu toute l'aventure aux côtés de la Scuderia. C'est vrai que ça doit lui faire quelque chose. Alors effectivement, on est obligé de se dédouaner ou de préciser ça. C'est vrai que Mick Schumacher est champion de Formule 3 en titre, il monte en... Le champion d'Europe, il monte en Formule 2. Ouais. Alors, il faut préciser, tu l'as dit, il y a Giuliano Alesi, le fils de Jean, que l'on salue chaleureusement. Je sais qu'il écoute Motors régulièrement, donc on est ravis de le voir dans cette belle Ferrari Young Drivers programme. Alors, ils sont nombreux quand même, hein. Faut pas oublier, il y a Callum Ilott, ça vous dit pas grand chose, mais il est aussi là. Il y a Marcus Armstrong, c'est pas du tout Louis Armstrong, il joue de la musique, mais il doit être beaucoup plus rapide. Il y a Robert Schwartzmann, et il y a également Enzo Fittipaldi et Gianluca Petekoff. Donc ça veut dire que on a quand même beaucoup de monde, hein, du côté des petits pilotes Ferrari. Ça va se décanter tout ça, mais enfin on rappelle quand même qu'il y a un certain Charles Leclerc qui lui aussi faisait partie de ce programme.
Comment ça se passe quand tu intègres la structure Ferrari, Jean-Luc? Quel intérêt justement pour un jeune pilote comme ça? Quelle est la suite logique dans sa carrière?
Eh ben déjà, il y a deux fois deux jours d'essai qui sont programmés dans la saison, c'est très peu, et que pour prendre le volant d'une des monoplaces, il faut que le pilote n'ait pas pris part à un Grand Prix. Alors jusque là, c'était Antonio Giovinazzi qui sera pilote sober en cette saison 2019, qui était au travail, hein, pour lui permettre de prendre contact. Donc chez Ferrari, on va choisir qui. Moi, je pense parier sans trop de problèmes qu'au moins une des journées sur les quatre, on verra Mick Schumacher au volant de la Ferrari. Puis j'espère qu'on verra un petit français, si tu vois ce que je veux dire, un certain Giuliano. Allez-y. En tout cas, on est suivi de près, on peut coiffer le casque, écouter toutes les conversations, bref, progresser, parfaire, et puis piloter le simulateur à l'usine, et tout ça, c'est extrêmement important pour mettre le pied à l'étrier.
On parle également dans l'actualité Formule 1 de la semaine des problèmes liés au Brexit pour les teams.
Ouais, ça inquiète beaucoup d'écuries de Formule 1. J'en ai parlé un petit peu avec Lucas, j'en ai parlé aussi avec nos journalistes qui sont spécialisés dans la Formule 1. Beaucoup d'écuries sont basées en Grande-Bretagne, d'ailleurs nombreuses sont celles qui sont proches de Silverstone, et ça va forcément poser des problèmes de douane, puisqu'il n'y a pas d'accord pour l'instant s'il y a un Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. La décision sera rendue le 29 mars, mais ça inquiète plusieurs écuries. Les bruits de couloir parlent d'une grosse écurie qui serait très inquiète et qui serait prête à écrire une lettre au Premier ministre Theresa May. C'est un vrai sujet à traiter, puisqu'on rappelle que les Grands Prix en Europe, ça concerne une grosse partie de l'année, en gros de mai à septembre. Donc il y a un vrai enjeu économique et financier pour les écuries qui sont basées en Grande-Bretagne, Jean-Luc.
Eh oui, Benoît, il y a 7 écuries basées en Grande-Bretagne. Il y a la Silicon Valley britannique. C'est exactement ce que tu disais. Toutes les écuries proches les unes des autres. Et s'il n'y a pas d'accord et on commence à l'évoquer au plus haut niveau en matière politique, ça va être extrêmement compliqué, non seulement pour le transfert et l'emploi des personnes venues du continent européen. Et on sait que toutes les équipes, même les équipes britanniques, j'allais dire, sont extrêmement internationales. Tiens, je pense à Renault, par exemple, qui est à deux têtes, hein, les moteurs à Viry-Châtillon et puis l'équipe qui est implanté en Grande-Bretagne. Et je sais que David Richards, qui a été un grand patron d'équipe britannique, qui a également pointé son museau en Formule 1, fédère. Alors, il y a 3 écuries, d'après mes renseignements, qui devraient signer cette lettre commune adressée à Theresa May. Alors, j'imagine que c'est l'un des problèmes que Theresa May a à résoudre actuellement, parce que dans tous les domaines, on peut dire que c'est pareil. Dans tous les domaines d'activité, non seulement sportive, mais industrielle, on va être confronté à ce souci. Je pense que la logique finira par l'emporter, et je le souhaite également, c'est-à-dire qu'il reste moins de 2 mois pour convenir d'un accord avec les autorités européennes et essayer d'harmoniser au mieux ce Brexit sur lequel, personnellement, je ne vais pas me prononcer.
On termine avec un Grand Prix, peut-être une idée de Grand Prix, pourquoi pas en Finlande. De quoi on a parlé récemment, dans quel pays un Grand Prix au Vietnam.
On avait parlé au Vietnam.
Et donc la Finlande, pourquoi pas un Grand Prix en Finlande de loin.
Ouais. Alors là, on se dit, Lucas et Jean-Luc, ce serait pour faire plaisir surtout aux pilotes finlandais. C'est vrai qu'il y a de nombreux pilotes finlandais en Formule 1, il y a encore Kimi Räikkönen notamment. C'est vrai que c'est un projet qui est étudié en tout cas. On va juste préciser qu'il y aura un Grand Prix MotoGP dès 2020 justement sur ce circuit finlandais et que la F1 commence à discuter. Pour cela, on rappelle le règlement, il faut que la FIA en fait valide le grade 1 du circuit pour que la discipline soit acceptée sur ce type de nouveau projet. Jean-Luc, tu y crois, un Grand Prix en Finlande, ça pourrait arriver dans les années qui viennent ?
J'y crois parce que c'est un grand pays de sport automobile en général et de F1. On rappelle évidemment les titres de Mika Hakkinen, de Kimi Räikkönen, tu le disais, c'est même le dernier titre avec Ferrari hein, en 2007. Donc c'est vrai que ça aurait une aura formidable. Et puis ils construisent ce circuit dans le sud du pays, moto, et on sait que le championnat du monde moto est en plein développement. Est-ce que quelque part la moto fait office un peu de tête chercheuse pour la F1 en l'occurrence? Écoute, ça aurait de la gueule, hein. Très sincèrement, je sais que le public est passionné, c'est un petit pays la Finlande, mais passionné de sport mécanique et après tout, ça ne serait que justice. Puis tu sais, moi je plaide pour les circuits naturels et celui-là, ça doit être un très très joli circuit naturel.
Tu sais comment ils appellent le circuit?
Ah, j'ai pas retenu, vas-y.
Le Kimi Ring, c'est drôle.
Le Kimi Ring. Allez, merci Benoît en tout cas pour toutes ces infos. Radio Paddock évidemment.
Salut.
Toutes les semaines. La semaine prochaine, bon Motors. Et Jean-Luc qui sera là. Très belle semaine à toi, Jean-Luc.
Oui, bah belle semaine. Je crois qu'on va parler de rallye. Hein. On parlerait du Monte Carlo, ça m'étonnerait.
À mon avis, Lucas Vinoy et Jean-Luc Roy seront là, même heure, même lieu. La semaine prochaine, très bonne semaine à tous. Et puis si vous restez avec nous dans un instant, c'est l'Intégral Sport sur RMC. 13h56.
RMC Motors avec Motorsport TV.